Rire qui au fond relève du dialogue des salons.
Les liaisons heureuses. Demain, à partir de 15h. France Inter. La différence.
Savez-vous par quoi commence là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet? Non, par le répondeur.
Daniel, oui, je voulais te remercier tout d'abord pour ton émission d'aujourd'hui sur la mort d'Hakim Hajimi. Je trouve ça consternant les peines dérisoires qu'a réclamé le procureur. Entre 2 ans avec sursis jusqu'à 6 mois avec sursis. Et voilà, donc j'ai appris que la famille d'Hakim est très choquée par cette décision et décide donc de boycotter la dernière journée donc de demain du procès. C'est Laurent de Étain. Voilà, je t'en remercie.
Bonjour Daniel et tous les amis. Voilà, j'ai l'impression que ça manque de musique dans ton émission. Ça manque de zizik. Il va falloir faire un effort. Allez, salut.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe. C'est Franck Dugard. Une petite piqûre de rappel. J'ai écouté votre émission aujourd'hui sur ce qui s'est passé. Sur ce qui s'est passé pour ce pauvre malheureux qui était passé à tabac et qui est mort des suites de la possibilité de pouvoir respirer, oui. Bien, nous, dans le Gard, on a du mal à respirer parce qu'il y a un an, si vous vous rappelez bien, le 21 janvier 2011, on avait du mal à respirer aussi parce que nous aussi, on n'avait pas la bac sur le dos, mais on avait des gendarmes, et notamment, ça avait fait le buzz sur Internet. On avait des gendarmes qui avaient gazé nos élus, puis accessoirement tout le monde, à l'occasion d'une petite manifestation pour empêcher cette réforme territoriale d'arriver à ses fins. Et ben nous aujourd'hui, donc demain, le 21 janvier, on invite toute la population à venir justement sur cette plate de la gare, commémorer ce souvenir, et un collectif s'est créé de victimes du 21 janvier, puisque 16 plaintes ont été déposées, et que ce malheureux dossier traîne toujours d'un tiroir à l'autre au tribunal de Nîmes. Décidément, la justice a fort du mal à passer. Donc demain, tous devant la gare d'Anduze, à 17h, pour commémorer cette histoire, et on espère que la justice passera pour une fois. Salut Daniel, bah continuez, hein, et allez, bon courage, ciao.
Grâce au nucléaire, nous avons l'électricité la moins chère d'Europe. C'est pour ça qu'il faut entretenir le réseau nucléaire et que l'électricité, dans les 4 ans, va augmenter de 30%. Alors attendez, bougez pas, je prends mon dictionnaire EDF français, français EDF. Alors voyons, augmentation 1, voire pourcentage, alors 1 pourcentage. Donc 30% en langage EDF correspond à 50% minimum en français usuel. Donc si je comprends bien, grâce au nucléaire, nous avons l'électricité la moins chère d'Europe, et d'ici quelques années, nous aurons l'électricité la plus chère d'Europe. Je me demande si on ne nous prendrait pas un peu pour des imbéciles. Ciao et bon courage à tous.
Merci pour tous ces messages. Aujourd'hui, on a un formidable message pour vous. Comment vous enrichir? Comment ne plus payer d'impôts? Comment devenir riche? Voilà, c'est tout le message d'aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment une émission révolutionnaire qui va changer votre vie, qui va vous permettre de vivre comme des nababs. Vous allez apprendre ça d'ici à 16h. Auparavant, encore quelques messages malgré tout parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Eric de Gérardmer. Donc c'était pour vous signaler que le repère de là-bas, si j'y suis, qui devait avoir lieu jeudi, est reporté à vendredi et qu'il n'aura pas lieu au bar Le Grattoir comme d'habitude, mais qu'il aura lieu à la mairie de Gérardmer, à la salle des armes à 20h30, parce qu'il y a une réunion publique qui est organisée par le collectif Vosgien informé pour annuler la dette. Donc nous nous associons à cette démarche et que le repère aura lieu donc vendredi 20 janvier à la mairie de Gérardmer. Bon courage à tous, et on a déjà perdu le quadruple A, on aura peut-être bientôt le quadruple B. Bye bye bling bling. Allez, bon courage à tous, bonne journée.
Sur quel Éden en fleurs et d'ombrage couvert, dans la plus exotique et lointaine banlieue, à deux pas de la ville et l'ensemble à des lieux, s'ouvre-t-il ce portail lumineux, peint en vert? Et d'abord, qui le sait, s'est-il jamais ouvert, montrant des sentiers d'or aux perspectives bleues, où sautille le pas brusque des hoches queues, où teinte une eau d'argent, où sonne le pivert? Le couronnant, ne vois-tu point passant mon rose, l'essor en plein azur de ce grand arbre rose, beau comme la promesse auguste du bonheur. Sais-tu bien le vrai nom de cet arbre enchanteur? Le rêve. Et ce portail à la vive nuance, ce portail vert, toujours fermé, c'est l'espérance.
Là-bas, si j'y suis, bat des records d'audience, depuis que j'y suis. Drôle de coïncidence. C'était le poète poussif. Salut.
Vous payez plus de 3500 euros d'impôts et vous êtes tenté par un logement dans une résidence de tourisme. C'est le type même d'investissement locatif auquel la loi ZRR, dite loi de Demessine, vous incite. Mais comment ça marche?
Les fenêtres ne sont pas montées comme il faut par rapport aux normes montagnes.
Mais comment ça marche?
Donc l'eau rentre dans les appartements, la neige stagne, elle fond, elle rentre dans les appartements, enfin bon, tout est...
Eh bien la loi ZRR vous permet de devenir propriétaire d'un logement neuf, sur plan ou achevé.
Les rampes d'accès dans les parkings pour les voitures, elles sont pas à la bonne inclinaison. Si vous passez avec votre voiture, le trou, il rate le plafond.
Un logement neuf, appartenant à une résidence de tourisme, située dans une zone de revitalisation rurale, ZRR.
Tout est à refaire. Il n'y a pas eu de coordination des différents corps de métier. Tout le monde a fait son truc dans son coin.
Une fois le bien immobilier acheté, vous confiez sa gestion à la société qui exploite la résidence.
Ils ont posé la moquette quand il y avait encore les maçons qui passaient dessus avec leurs chaussures pleines de ciment. Enfin.
La société gestionnaire s'occupe de la location de votre bien, de son entretien et des éventuelles réparations qui pourraient intervenir.
Le plaquiste refaisait les plafonds alors qu'il y avait encore des fuites dans le toit, du coup tout est à refaire. Enfin.
Réunissez un maximum d'informations sur la zone dans laquelle vous envisagez d'investir et fiez-vous à votre instinct. Il peut être un bon conseiller.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry. Vous aussi, soyez riches. Ne payez plus d'impôts.
Flight number 2, arriving from
New York. On commence avec la lutte contre les violences policières.
Quelqu'un veut un café?
Vous avez des archives là-dessus, alors, les mecs?
Tu veux? Bon, café?
Merci, c'est gentil.
Ah,
ça va?
Salut. Tu as un petit café?
Chocolat plutôt, tiens.
Bon, tu viens avec nous alors
Ah bah non, je peux
demain
pas,
soir, je peux pas, non ça. Mais c'est l'anniversaire de Daniel.
Bah oui, je sais bien, mais en ce moment, je peux pas trop sortir. J'ai des problèmes de sous en ce moment, en fait. J'ai pas trop en parler, mais...
Des problèmes de sous?
Ouais.
Attends, tiens ton chocolat.
Ouais. Bah ouais, parce que j'ai fait un placement foireux et là, je suis à sec, en fait.
Un placement foireux?
Ouais, j'ai fait ça, ouais, c'est vrai que c'est pas de ma nature, mais j'ai voulu payer moins d'impôts et en fait, ça a planté, voilà quoi.
Mais c'était quoi ce placement foireux?
C'est des défiscalisations, tu sais, il y a des... dans un appartement, dans un achat d'appart ou un truc comme ça, ça te permet de payer moins d'impôts, il y a des lois là-dessus. Ce qu'ils disent pas, c'est qu'il y a plein de plans qui marchent pas, ça marche pas à tous les coups. Il y a un problème, mais tant pis pour toi. Dans la défiscalisation, il y a eu de l'or en barre à se faire sur le dos des petits épargnants, comme moi. On est nombreux dans mon cas. Hein.
Mais qu'est-ce qui s'est passé, Faye?
En fait, c'est le promoteur qui a merdé. On m'avait conseillé mal, en fait, un truc, mais ça, on le sait pas. Quand tu connais rien, tu vois, on m'a mal conseillé sur ce placement-là. C'est un appartement à la montagne. C'est dans le Cantal. C'est au Lioran. La station de ski s'appelle le Lioran. C'est un bâtiment pour location de ski, hein, dans une station, tu vois. C'est une loi, la loi de Demessine, ça s'appelle. Et donc, on a tous payé tous les paliers. On a payé à chaque palier de construction. Je sais plus, moi, une bonne centaine, un peu plus. Petit à petit, il y a eu du retard. On commençait à nous baragouiner que ça allait arriver, qu'il y avait la remise des clés, etc. Puis ça s'est jamais fait. Et puis après, il y a eu un gars qui a cherché, qui a créé une association. Qui était comme nous, hein, un gars comme moi qui a voulu placer son pognon.
Bonsoir.
Il nous a retrouvés et on a créé une association. Et donc il y a des crédits immobiliers évidemment derrière ça. Hein, donc chacun a contracté un crédit.
Et là tu rembourses ton crédit?
Voilà, je rembourse mon crédit, mais sauf que j'ai pas l'appart, j'ai pas les revenus, j'ai pas la défiscalisation. Je paye qu'un crédit, genre 800 euros par mois pour rien. Et sachant que l'appartement a coûté dans les 100 000 euros.
vous n'êtes pas sûr de l'avoir finalement?
Non, on n'est pas sûr. On se bat depuis 3 ans. Et comme ça creusait mon budget, j'ai dû emprunter pour m'en sortir. Et j'ai dû faire d'autres crédits de consommation. Et en final, je suis surendetté sans l'être officiellement. Mais je dois vraiment faire gaffe parce que même mon salaire ne suffit pas à m'en sortir correctement, convenablement, pour vivre. Ça paraît bête, mais voilà. À cause d'une histoire de défisque mal ficelée, comme il doit y en avoir beaucoup. Mais d'ailleurs, toi, avec Daniel, ça serait pas mal comme idée de faire ça.
Ah ouais, t'as raison. J'ai proposé à Daniel une émission sur les pigeons de la défiscalisation.
Ouais, si tu veux, ouais, effectivement. Un pigeon, ouais. Alors ça serait pas mal, franchement.
D'accord, ça s'appelle comment cette résidence, tu sais?
Le Grand Phénix. Ça, ouais, c'est vraiment. Ça, vu rien que le nom, j'aurais dû faire gaffe au départ, quoi.
Ça vous plaît vraiment de payer tous ces impôts comme des imbéciles, Vous en avez pas marre de vous faire tondre, bande de moutons, Comment font les riches? Les riches, ils sont moins cons que vous, les riches. C'est pourtant facile de plus payer l'impôt. Il suffit de devenir propriétaire. Ça vous plairait de devenir propriétaire? Vous n'avez pas de sous? Aucune importance. 100% de prêt. À taux zéro. C'est bien, non? Et avec ça, vous avez résidence, élite, prestige, jacuzzi, vue sur les monts enneigés. Prenez de la hauteur, enrichissez-vous, ne payez plus d'impôts. Formidable, non? Voilà. Ils sont quelques milliers, dizaines de milliers, à s'être fait ainsi pigeonner. Pigeonner comme notre collègue s'est fait pigeonner. Oui, plusieurs milliers à avoir cru aux sirènes de la défiscalisation avec investissement dans l'immobilier. Alors, c'est pas des très riches qui se sont fait pigeonner comme ça. C'est pas non plus des très pauvres. Les pauvres, ils payent pas d'impôts ou un petit peu d'impôts. Bon, ils sont déjà tendus avant même d'arriver. Mais c'est ceux qui s'enrichissent, vous savez, qui commencent un petit peu à aller mieux. Voilà, on commence à bomber un peu le torse. On commence à, à croire un petit peu nouveau riche sur les bords. On me dit, Oh là là, c'est formidable. On va pouvoir investir, regarde ça, à la neige, c'est magnifique, dans le Cantal, mais c'est super le Cantal. Alors voyons voir, on regarde, montage du dossier, les étapes chronologiques, la fiche technique, le Grand Phénix, rien que les caractères, le Grand Phénix, vous savez, des caractères un petit peu anglais, là vous avez le maître d'ouvrage, l'architecte, les notaires, le gestionnaire, le commercialisateur, le cabinet fiscal mandaté. Et puis alors, construction à caractère traditionnel, alliée à des solutions techniques actuelles, le plus grand soin va être apporté à la partie architecturale. Ça va être formidable. Alors là, vous avez des prestations et services haut de gamme, le raffinement des prestations et le soin particulier apporté aux détails de structure permet au Grand Phénix de revendiquer un statut résolument haut de gamme en conjuguant authenticité et qualité. Là, vous craquez. Authenticité, qualité, haut de gamme, c'est fait pour vous. 3 étoiles, le Grand Phénix. Eh oui, les pigeons, cette heure vous est consacrée.
Bienheureux les gens qui ont des rentes, ma situation est différente. Il me reste un ticket d'autobus, pas plus, et la vie pour moi est un rébus. Je suis fauché, voilà ce que c'est que d'être un débauché. Je n'ai, je vous le dis, plus un radis, plus un pélo, plus un maravédi. faut pas se frapper, c'est la grise. Y'a pas que moi qui est dans la mouise. Je suis fauché, mais pour si peu je ne vais pas pleurnicher. Quand on est comme moi en chômage, cela offre quelques avantages. L'homme du gaz, le tailleur, l'épicier, l'huissier, je réponds, je ne peux pas vous payer. Je suis fauché, c'est pas de ma faute si je suis débauché. On ne me paie pas, je ne vous paie pas, on ne me paie pas, c'est simple, et voilà. Et quand ma petite amie Germaine me dit, ce soir où tu m'emmènes, je suis fauché, je lui réponds, je vais t'emmener coucher.
Vous payez plus de 3500 euros d'impôts et vous êtes tenté par un logement dans une résidence de tourisme. C'est le type même d'investissement locatif auquel la loi ZRR, dite loi de De Messine, vous incite. Mais comment ça marche? Eh bien, la loi ZRR vous permet de devenir propriétaire d'un logement neuf, sur plan ou achevé, appartenant à une résidence de tourisme située dans une zone de revitalisation rurale, ZRR, ou dans une zone dite Objectif 2. Une fois le bien immobilier acheté, vous confiez sa gestion à la société qui exploite la résidence. Ensuite, vous le louez pendant 9 ans dans le cadre d'un bail commercial renouvelable. En contrepartie, la société gestionnaire s'occupe de la location de votre bien, de son entretien et des éventuelles réparations qui pourraient intervenir.
Là, je me trouve à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Et je vais aller rencontrer M. Hervé Boulmier, qui lui aussi a voulu faire une belle affaire en investissant dans un bien immobilier défiscalisé. Et comme les 178 acquéreurs d'appartements de la résidence de tourisme Le Grand Phénix, dans le Cantal, eh ben son rêve s'est transformé en cauchemar. Là, on arrive devant un petit square. Juste en dessous, il y a le siège de la BNP, avec une énorme pub pour CTLM. Voilà, là on arrive devant un grand immeuble, tout moderne, tout blanc.
Ici vous voyez déjà Hervé Boulmier, il n'est pas le seul à avoir cru à cet enrichissement facile et rapide et cette loi de Messine. C'est une loi parmi d'autres, hein. C'est une loi qui vient à l'intérieur des lois de défiscalisation immobilière. Vous avez compris, peut-être que parmi vous, il y en a qui ne sont pas des pigeons. D'ailleurs, peut-être que certains se sont enrichis et sont tout à fait heureux. Mais enfin, il y en a quand même quelques milliers. On nous a dit 30 000, on nous a dit 50 000. On n'arrive pas à calculer, d'ailleurs, c'est assez curieux. Mais c'est ainsi qui se sont fait absolument rincer et pigeonner. C'est le cas d'Hervé Boulmier. Ce qu'il faut dire, c'est que les promoteurs immobiliers en France constituent un lobby extrêmement puissant. Ils ont leurs entrées dans les ministères. Certains de nos chers élus sont directement liés aux promoteurs et aux établissements bancaires spécialisés dans le financement immobilier. Et cela explique peut-être l'importance des niches fiscales en matière immobilière. Alors les lobbies expliquent que sans les produits de défiscalisation, le marché immobilier s'effondrerait. Et on va voir l'avocat Paul Duvaux, un peu plus loin dans cette émission, nous expliquera à quel point cette assertion est fausse. Mais on n'est pas encore là, on est avec Hervé Boulmier à Levallois-Perret.
Bonjour.
Bonjour, enchanté.
Enchanté.
Entrez, je vous en prie. Entrez.
Alors, à l'origine, ce qui nous a motivés, mon épouse et moi, c'est un projet de défiscalisation. Nous étions aperçus que nous payions beaucoup d'impôts puisque nous, on arrivait à deux à un montant d'impôt qui était quand même supérieur à 7000 euros. Voilà, donc, on voulait pas rester à ce niveau-là. Et donc, la minoration apportée par le de Messine, le système était pendant 6 ans, les 6 premières années de mise en location, une réduction d'impôt de 4600 euros par an. Donc là, on passait de 7000 à 2400, ça devenait beaucoup plus intéressant financièrement. Alors, le système d'acquisition était avec un prêt bancaire, hein, l'apport était à 0 euro, et les amortissements mensuels étaient couverts par le loyer plus l'avantage fiscal. Donc on était parfaitement confiants, très heureux, aucune raison de s'inquiéter a priori.
Donc du coup, vous avez emprunté auprès du Crédit Agricole d'Aquitaine, ça ?
Voilà, donc nous avons fait un emprunt de presque 140 000 euros auprès du Crédit Agricole d'Aquitaine. Donc l'amortissement, il est mensuellement de 905 euros, auquel s'ajoute à peu près 35 euros d'assurance, qui fait 940 euros à payer par mois. Donc il devait y avoir réception de l'appartement en janvier 2008. Sauf que janvier 2008, février 2008, mars 2008, toujours rien. Et le promoteur nous disant, oui, effectivement, à cause de la neige, des intempéries, on n'est pas allé aussi vite qu'on le voulait. Le problème, c'est que nous, n'ayant pas nos rentrées, nous n'avons pas payé les amortissements de notre banque prêteuse, qui nous annonce que, un, bien sûr, c'est l'inscription en rouge à la Banque de France, donc plus droit au moindre crédit, plus droit aux facilités de paiement nulle part, plus rien du tout. Et puis, la banque nous a informé qu'ils étaient fondés à nous réclamer le remboursement de la totalité du prêt d'un seul coup.
Les 135 000 euros.
Voilà, donc on se retrouvait avec rien du tout, et même moins que rien, grâce au promoteur. Le Crédit Agricole est allé jusqu'à faire saisir tous nos revenus et tous nos avoirs sur nos comptes bancaires.
Votre salaire aussi ?
À tout. Tout pris. Tout saisi. Nos comptes bancaires intégralement saisis à mon épouse et à moi, hein, par voie d'huissier. Toute somme qui rentrait sur notre compte était bloquée. Donc, on a tout vu rejeter. Toutes nos factures, électricité, loyer, tout a été rejeté. Et donc, nous remboursions tous les mois entre 1200 et 1800 euros à peu près. Donc, effectivement, les fins de mois ont été délicates. Oui. Et aujourd'hui, le programme est arrêté, on ne touche rien. Et alors, le problème est fiscal aussi. Hein, on aura aucun avantage fiscal à tirer dessus. On a perdu 6 fois 4624 euros. Donc, ça fait une grosse perte. Plus le loyer, bien entendu, qu'on n'a pas touché jusqu'à présent. Plus les amortissements d'emprunt, les intérêts qu'on paye pour rien. Puisqu'en face, on n'a rien, on n'a pas de bien. Donc aujourd'hui, ça nous est revenu à chiffrable immédiatement à 80 000 euros de perte. Ça nous a considérablement pénalisé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a réduit le niveau de vie, on a réduit infiniment de choses. Avant le de Messine, nous faisions tous les ans un voyage pour notre anniversaire de mariage. Il n'en est plus question. Nous restons à la maison, nous sortions un petit peu. Il n'y a plus de loisirs, on sort plus. Plus de restaurants, plus de choses comme ça. Hein. C'est terminé. On a encore aujourd'hui 16 ans. D'emprunt à payer. Alors nous avions pris un 4 pièces. C'était un parmi les lots les plus importants du programme. Donc on se retrouvera propriétaire de ce lot, sur lequel on n'aura pas de défiscalisation, qui ne nous intéresse plus. Il ne nous rapportera rien. Nous, on n'a qu'une seule ambition, c'est de s'en débarrasser le plus vite possible. On ne fera plus ce genre d'opération, c'est terminé. On jouera maintenant la sécurité, la tranquillité. Nous deviendrons des petits rentiers.
Il est à noter que ces économies gestion mutualisée de l'ensemble
en parallèle, nous avons le droit
en général entre 9 et 11 ans
pour un couple
renouvelable.
La base de 25% de 100 000
à notre fameuse réduction sur l'impôt.
Je suis Awan Seznek, journaliste à Que Choisir en charge des questions immobilières. Les lois de défiscalisation, ça a toujours existé, enfin en tout cas depuis longtemps. Là, on peut parler de la loi Malraux qui remonte à 68. Il y a eu aussi la loi Besson dans les années 90. Bon, le principe est toujours le même, il s'agit d'inciter les gens à investir dans l'immobilier en échange d'une petite carotte fiscale. Ça, c'est le principe de base. Donc, ce qui nous a beaucoup gênés et ce qui nous a beaucoup inquiétés, c'est le dérapage de lois récentes. Il s'agit des lois Robien, Cellier, de Messine. Les soucis ont démarré à partir de 2005. La loi de Messine consiste à accorder un cadeau fiscal à des gens qui placent de l'argent dans des résidences de tourisme situées en zone rurale. Alors quand on dit placer de l'argent, on imagine des ménages aisés qui investissent le surplus de leurs économies. En réalité, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les spécialistes de la défiscalisation qui travaillent sur le de Messine prospectent plutôt des ménages à revenus moyens et on les pousse à emprunter pour investir dans ces résidences, en leur présentant ça comme un placement absolument sans risque. Donc on a dit aux gens, voilà, vous aurez une mensualité de 1000 euros, mais sur ces 1000 euros, vous allez encaisser 500 euros de loyer et vous allez avoir 300 euros par mois de défiscalisation. Donc en fait, vous allez payer un appartement en déboursant seulement 200 euros par mois. C'est fantastique. Sauf que s'il n'y a pas de locataire, il n'y a pas les 500 euros. Et s'il n'y a pas de locataire pendant 12 mois, on perd définitivement le bénéfice de la défiscalisation. Donc on se retrouve avec une mensualité de 1000 euros qui s'ajoute en général à ce que les gens payent pour rembourser leur logement principal. Et c'est quelque chose qui est totalement insupportable financièrement pour beaucoup de gens. Pour donner un ordre de grandeur, en 2010, la défiscalisation a représenté 75% de la construction dans le neuf. C'est quelque chose qui est devenu massif. C'est plus du tout un petit phénomène qui concernerait une niche peuplée de dentistes, de cardiologues et de chirurgiens aisés. C'est devenu quelque chose qui concerne des milliers de Français et des Français moyens. Ce qui est sûr et certain, c'est que ça concerne des dizaines de milliers de particuliers en France. Ce qui va faire de la défiscalisation, à notre avis, le plus gros scandale financier de l'après-guerre. C'est une ampleur totalement inédite, même depuis les grands scandales comme la garantie foncière de la fin des années 60 et du début des années 70. C'est une espèce de scandale souterrain, mou, discret, dispersé dans des tas de petites villes, mais c'est un scandale énorme. Monsieur Benoît Apparu, secrétaire d'État au logement, nous a dit « De toute façon, ce qu'il faut, c'est soutenir l'activité dans le bâtiment. » Alors, s'il faut carboniser l'épargne des ménages français pour soutenir l'activité dans le bâtiment, bon, autant le dire tout de suite. Mais il est clair et net qu'un grand nombre de gens vont traîner ces emprunts et ces placements malencontreux comme des boulets pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans.
En voulez-vous du boniment, du fumant, du pathétique ? En voulez-vous des compliments, c'est pas cher et c'est pratique ? Baratin, blablabla, patati, patata, monnaie de singe. On vend du banc et avec ça, on peut se payer du beau linge. Ça vaut la peine à ces prix-là de se fatiguer les méninges. Pour qui sait la choisir, y a toujours de la poire à cueillir. Ohé, les champions du bidon. Vendez, vendez à plein bidon. Tout ce qui s'achète et qui se vend, la choucroute et la musique. La loi et les beaux sentiments, l'amour et la politique. Du bidon, du bidon, du bidon, du bidon, du bidon. Ce bon monsieur que vous voyez faire la quête pour l'enfance n'est qu'un vieil escroc déguisé qui prépare ses vacances. Ce brave homme qui promet des logements qu'on lui paie à l'avance vient d'être logé à nos frais, 5 ans pour abus de confiance. À peine sorti rasé de frais, le voilà qui recommence. Pour qui sait la choisir, y a toujours de la poire à cueillir. Ohé, les champions du bidon. Vendez, vendez à plein bidon. Qui sera assaisonné la plupart de vos salades. Mais faudra pas vous étonner quand on crèvera de rigolade. Pour qui sait la choisir, y a toujours de la poire à cueillir. Du bidon.
Vous voyez là, j'ai quelques courriers
que je peux vous présenter. Vous voyez, Merboul, on est le 21/11/2007, 21 novembre 2007. Vous lisez bien déclaration d'achèvement des travaux de la résidence du Grand Phénix. Madame, monsieur, la résidence du Grand Phénix dans laquelle vous avez acquis un appartement est en voie d'achèvement. En effet, je vous confirme par la présente que nous effectuerons la déclaration fiscale d'achèvement de travaux le 31 décembre 2007. Conformément à la loi, la résidence sera mise en exploitation par le gestionnaire dans les 30 jours suivant la date. Voilà, on parle déjà de fin de travaux, vous voyez ? Par rapport à ce que vous avez vu comme photo, ça vous fait peur. Donc, bien sûr, il y a tout le temps qui passe, on arrive au 16 décembre 2008. Hein, c'est pareil, c'est ce même promoteur qui m'écrit. Convocation, réception définitive, il me parle. Hein, parce que maintenant, à ce jour, votre appartement est terminé. Nous vous invitons par la présente à venir réceptionner à partir du 29 décembre 2008. Vous voyez le courrier ?
Il est presque 9h du matin et je me trouve gare de l'Est. Je cherche le TGV en provenance de Reims, Charleville, qui va arriver à 9h. Et j'ai rendez-vous avec le conducteur du TGV, qui s'appelle Sylvain Desjardins, et qui lui aussi s'est fait avoir dans cette affaire d'immobilier défiscalisé du Grand Phénix. Monsieur Desjardins ?
Oui, c'est bon, vous attendez ?
Oui, c'est ça, bonjour.
Bonjour, on y va ?
On y va.
Donc, mon avantage, j'ai pas de problème de réservation.
Ça fait longtemps que vous faites ce métier ?
Trop longtemps.
Trop ?
Faire toujours la même chose aussi longtemps, c'est plus aussi intéressant, on va dire.
Tous les jours, vous faites la même ligne, Reims, Paris ?
Non, pas toujours la même ligne, mais bon, tous les trains arrivent à Paris, donc on est là tout le temps, quoi.
On rentre dans le café, c'est bon, allez-y. Bonjour.
Alors voilà, tout à l'heure, c'était Hervé Boulmier, le premier pigeon qu'on vous a présenté. Juriste, quand même, dans une entreprise privée, qui fait partie des 178 acquéreurs d'appartements de la résidence de tourisme Le Grand Phénix. Et voici, maintenant, un autre de ces pigeons, qui est conducteur de train, qui vit à Reims, Sylvain Desjardins. Alors, on a évoqué, là, vous avez entendu, qu'il ne faut pas non plus pleurer sur tout le monde. Hein. Le maître d'ouvrage, l'architecte, le notaire, le gestionnaire, le commercialisateur, le responsable du cabinet fiscal mandaté. Je pense que tous ces gens-là ne doivent pas être en train de pleurer à l'heure qu'il est. Sylvain Desjardins.
On n'a pas été livré de nos appartements, donc on est propriétaire de rien du tout pour l'instant. J'ai été démarché par un ami, une ancienne connaissance, qui vend du produit défiscalisant. Je le connaissais, c'est un ancien collègue de travail, en fait.
Ah, qui était donc conducteur de train comme vous ?
Tout à fait. Donc, à la retraite, il était passionné par tout ce qui est produits boursiers ou autres. Il a pris des cartes de vente de produits en tant que professionnel. Et donc, connaissant mes besoins, mes envies, il m'a proposé ce produit-là. Pendant 6 ans, je ne payais pas d'impôts.
Du tout.
Donc c'était bien, quoi. Hein.
Parce que vous payez combien d'impôts, par exemple, par an ?
Ça tourne dans une fourchette, je dirais, entre 5-6 000 euros d'impôts par an. Donc il faut être livré de l'appartement pour que le dispositif fiscal s'enclenche.
Et vous êtes rendu sur place ? Vous connaissiez le Lioran ? Vous avez été voir ?
Il y a très longtemps, mais je m'y suis rendu après pour voir l'avancement des travaux, oui.
Et alors, qu'est-ce que vous avez découvert ?
Le chantier était en grand désordre. Ça, c'était en 2007. À l'époque, bon, ça avançait quand même. On attendait la suite, quoi. J'y suis retourné l'été 2008. Alors là, c'était carrément catastrophique. Le chantier était à l'abandon, cas de vent. C'est un vrai gâchis, hein. Les fenêtres sont pas montées comme il faut par rapport aux normes montagnes. Donc l'eau rentre dans les appartements, la neige elle stagne, elle fond, elle rentre dans les appartements. Enfin bon, tout est... Les rampes d'accès dans les parkings pour les voitures, elles sont pas à la bonne inclinaison. Si vous passez avec votre voiture, le toit, il racle le plafond. Enfin, tout est à refaire. Il n'y a pas eu de coordination des différents corps de métier. Tout le monde a fait son truc dans son coin. Ils ont posé la moquette quand il y avait encore les maçons qui passaient dessus avec leurs chaussures pleines de ciment. Enfin. Le plaquiste refaisait les plafonds alors qu'il y avait encore des fuites dans le toit. Du coup, tout est à refaire. Enfin. Ah non, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est sûr qu'il faut le voir pour le croire. Hein. C'est terrible. Les balcons sont écroulés parce qu'on est en pleine montagne, mais ils n'ont pas mis de barre sur les toits pour retenir la neige. Alors il y a des centaines de kilos de neige qui descendent du toit directement sur la terrasse où les gens sont censés passer. Vous prenez ça sur la tête, je vous dis pas. C'est tellement lourd que ça a réussi à casser les rambardes de balcon. Ils ont mis le jacuzzi, le hammam en bois, tout est neuf, c'est posé, ça servira jamais. Tout autour c'est des gravats. Le plafond il s'est à moitié écroulé avec les fuites. C'est un peu surréaliste, hein, je vous le dis. Il faut voir ça pour le croire. Hein. Il y avait une salle de fitness qui était prévue, il y a des baies vitrées. C'est des vitres, les verres, ils font 3 mm d'épaisseur. C'est des vitres qui font 5 mètres de long. Si vous appuyez contre, elles tombent dans le vide. Je peux vous dire que c'est quelque chose. Hein. Ah oui. Ça montre bien la façon dont le chantier était conduit. Tout à l'avenant. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais c'est vrai que c'est quand même assez incroyable. Si j'avais été voir le chantier qui était déjà commencé à l'époque que j'ai signé, que j'avais vu ce que j'ai vu là, jamais j'aurais signé. Moi, j'aurais gagné mon temps quand même. Hein. C'est une erreur de faire confiance sur plan. Toujours se déplacer. Et voilà, un professionnel qui vient avec une brochure, vous lui faites confiance. Voilà. Tout le monde était un petit peu trop confiant, quoi, ça c'est sûr. On en fait les frais aujourd'hui.
Et vous aviez déjà fait des investissements comme ça dans des biens immobiliers défiscalisés?
Non, jamais. Pour la première fois, c'est pas trop une réussite, mais enfin bon, c'est tout, ça va sûrement s'arranger. C'est vrai que ça refroidit quand même. Hein. Enfin là, j'ai perdu au bas mot 3 ou 4 ans de loyer quand même. Hein. Plus la défiscalisation que j'ai pas eue, donc ça fait déjà au bas mot 50 000 euros, quoi. Enfin, quelque chose comme ça.
Plus du coup les intérêts que vous remboursez?
Les intérêts, je paye, ça, y a pas de souci, ce côté-là, je paye mon crédit, donc je paye tout. Hein. Bah, j'ai emprunté 110 000 euros.
110 000 euros, et là, vous remboursez tous les mois
790 euros. Comble l'ironie. Les propriétaires qui ont été contactés, ils ont reçu des lettres.
Des impôts?
Ouais, des impôts. C'est les avocats qui sont chargés de leur répondre. Donc ça, c'est pour l'instant, ça va, mais vous savez, l'heure n'est pas au cadeau. Hein.
Qu'est-ce qui réclamaient les impôts?
Ben, la TVA. La TVA du bien, comme j'ai acheté hors taxe. Pour eux, il y avait rupture du contrat, et donc ils réclamaient la TVA. Donc les impôts, bon, ils ont... En considérant la situation délicate de pratiquement tous les propriétaires, ils ont décidé d'attendre. Mais bon, au final, on sait pas trop.
Donc en plus, vous risqueriez d'avoir à rembourser la TVA.
C'est un petit risque, mais il n'est pas écarté complètement.
Le plafond est de 12 500 euros, donc c'est la moitié, 83 euros de gain fiscal. Un gain fiscal directement sur l'impôt, puisque ce gain fiscal de 25 000 est divisé par 6 ans en ZRR.
Les investissements réalisés dans le cadre de la loi ZRR comportent toujours des risques, dont certains ont déjà fait les frais. Quelques conseils sont donc toujours bons à prendre. Pour minimiser les risques, assurez-vous avant tout que la société de gestion à laquelle vous confiez votre bien soit sûre. Renseignez-vous sur le développement futur de la ZRR où votre bien est situé. Si la zone est amenée à connaître une explosion du marché locatif, alors l'offre et la demande risquent d'être déséquilibrées. Trouver un locataire peut devenir alors plus difficile. En revanche, en cas de rupture du bail commercial sur plus de 30% des logements de la résidence de tourisme classée, elle perd sa classification et les critères de la ZRR ne sont plus respectés. Il ne vous reste plus qu'à trouver un repreneur pour votre bail. Enfin, en cas de nouveau bail commercial avec un nouveau gestionnaire, une baisse du montant des loyers peut vous être imposée. Et en attendant, vous êtes toujours redevable de la TVA et des impôts sur le revenu. Alors pour éviter certaines situations qui conduisent parfois à la banqueroute personnelle, soyez vigilants. Réunissez un maximum d'informations sur la zone dans laquelle vous envisagez d'investir et fiez-vous à votre instinct. Il peut être un bon conseiller.
Donc, Paul Duvaux, vous êtes avocat fiscaliste. Disons que moi, je sois une jeune chef d'entreprise pour qui les affaires commencent à bien marcher. Là, cette année, pour la première fois, j'ai vraiment payé quand même pas mal d'impôts. Et justement, j'ai eu, par exemple, un coup de fil d'un conseiller qui m'a appelé en me disant, grosso modo, « Mais mademoiselle Perry, mais que vous êtes bête, vous payez vos impôts plein pot, alors qu'il y a tout un tas de dispositifs qui vous permettraient de faire des économies d'impôts en toute légalité, en investissant dans un bien immobilier défiscalisé. » Voilà.
Malheureusement, en France, les gens qui payent des impôts sont considérés comme des idiots. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on vous a alpagué. C'est en vous vendant un produit qui est sans doute un mauvais produit, mais qui vous a surtout vous excité ou plu parce que il y avait l'argument du moins d'impôts qui a été décisif pour vous. Donc, en pratique, ce que je peux vous dire, c'est que la défiscalisation de tout temps est un formidable outil de fonctionnement, de travail pour les escrocs. Il y a des secteurs entiers, moi je connais très bien le secteur de la para-hôtellerie, où il y a eu, de manière assez sidérante, un développement incroyable des escrocs. Une grosse partie des promoteurs qui ont vendu des produits de défiscalisation immobilière en résidence hôtelière sont des gens qui ont pratiqué de manière industrielle des tromperies auprès de leurs clients. On a vu régulièrement, et la presse en est fait l'écho, des opérations complètement délirantes. Et ces opérations délirantes ne sont pas des opérations isolées. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de schémas frauduleux et l'escroquerie dans ces activités. Alors l'escroquerie, elle a deux causes principales. Une des causes, c'est le manque de sérieux, de rigueur de l'État. L'État devrait fliquer beaucoup plus ses produits. Et il y a énormément de schémas de défiscalisation qui n'ont pas été sérieusement contrôlés par les services fiscaux, qui n'ont pas toujours les moyens pour le faire. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la première raison. Mais à mon avis, il y a une raison plus profonde au développement de l'escroquerie dans la défiscalisation. C'est lié à la psychologie de l'investisseur. L'investisseur, à partir du moment où il entend le mot défiscalisation, il perd complètement son bon sens, il perd complètement sa capacité à raisonner, à réfléchir et son sens critique. Donc, il est la victime idéale de l'escroc. L'escroc arrive à lui faire croire des tas de trucs complètement fous et débiles. Et quand, quelques années après, quand vous vous êtes confronté à ce... Moi, en tant qu'avocat, quand je vois cet investisseur, je lui dis, mais quand même, là, regardez le schéma qu'on vous a fait. Regardez la simulation. Il y a une escroquerie, là, il y a une tromperie. Là, on vous a fait croire que ceci, on vous a fait... Franchement, si vous aviez mieux lu, hein, vous seriez rendu compte. Et il y a des gens très intelligents, des gens qui ont des hauts niveaux d'études et qui ont sur des tas d'autres sujets un sens critique certainement très développé. Mais là, parce qu'il s'agit de défiscaliser, ils perdent tout sens critique, tout bon sens, et ils sont prêts à plonger dans des trucs complètement fous, à croire le premier marabout venu finalement. Et vous voyez, c'est ça pour ça qu'il y a beaucoup d'escroqueries. Paradoxalement, c'est pas les gens très riches qui font de la défiscalisation. En tout cas, qui font les gros bataillons des investisseurs en défiscalisation. Les gros bataillons, c'est plutôt la classe moyenne ou moyenne supérieure qui, de manière ponctuelle, se retrouve avec des revenus importants et qui devient à moitié cinglé parce qu'ils se rendent compte qu'ils payent trop d'impôts. Les gens très riches n'ont pas besoin de défiscalisation. Les gens très riches, effectivement, ils ont des techniques soit légales, soit illégales, mais ils ont des techniques infaillibles, bien meilleures. Ils ne sont pas victimes, en tout cas, des escrocs, les gens très riches. Parce qu'ils ont effectivement les conseillers qui les aident. Ils ont des avocats, ils ont des banquiers de qualité et ils mettent en place des schémas plus astucieux. Voilà.
Bon, alors je continue mon enquête sur les pigeons de la défiscalisation immobilière. Et là, je me trouve donc dans le 6e arrondissement de Paris. Je longe les grilles dorées du jardin du Luxembourg pour me rendre au Sénat, où je vais rencontrer Madame Michèle de Messine, qui est aujourd'hui sénatrice du Nord, mais qui autrefois, entre 1997 et 2001, était secrétaire d'État au tourisme sous le gouvernement Jospin. Alors, Madame de Messine est communiste, et aussi étrange que cela puisse paraître, Elle a donné son nom à une loi de défiscalisation immobilière, la loi de Messine. Et c'est en investissant dans ces résidences de tourisme, alléchées par la réduction d'impôts que proposait la loi, que beaucoup d'épargnants se sont cassés les dents. Le syndicat national des résidences de tourisme estime qu'environ 6000 lits posent problème. Et la Fédération des associations de résidences de tourisme, la FEDART, estime qu'environ 5000 personnes ont été lésées en investissant dans du de Messine. Alors voilà, là on arrive devant le Sénat et on va aller chercher quelques explications auprès de Madame de Messine elle-même.
On pourrait imaginer que Madame de Messine, femme politique communiste française, qui a été, comme le dit Charlotte, secrétaire d'État au tourisme sous le gouvernement Jospin, aurait bien souhaité que son nom ne soit pas associé à cette loi. Tout comme peut-être M. Robien ou M. Cellier, dont les noms sont associés à des programmes de défiscalisation qui parfois ont quelques effets pervers pour quelques milliers de Françaises et de Français, au point que ce confrère voyait dans cette histoire de défiscalisation le plus gros scandale financier de l'après-guerre et qu'il a qualifié de scandale mou ou scandale souterrain. Ça mérite quand même en effet quelques explications.
C'est un petit peu étonnant qu'une loi de défiscalisation porte le nom d'une femme politique communiste.
Ah non, pas du tout. D'ailleurs, il y a du sens. Je vais vous l'expliquer. Pour permettre l'investissement dans des zones qui étaient beaucoup moins attractives que les zones de haute montagne ou les zones littorales, là où on trouvait beaucoup plus facilement des investisseurs. Donc ce dispositif existait déjà, le dispositif de défiscalisation, mais il était accessible sur l'ensemble du territoire, mais utilisé que sur 20%. Évidemment, on comprend bien que les investisseurs allaient dans les zones les plus fréquentées. Et donc j'ai remis en place ce dispositif en le limitant à ce qu'on appelait à l'époque les zones ZRR, c'est-à-dire les zones plus de développement, de campagne, à l'intérieur du pays. Donc ce dispositif, il avait du sens. Moi, je n'ai pas permis de faire de la fiscalisation pour que les promoteurs immobiliers puissent investir, faire du bénéfice. C'était pas ça. Moi, je cherchais à favoriser l'investissement hôtelier, immobilier, dans des zones où ils ne voulaient pas aller. Seulement, après... Moi, depuis 2001, je ne suis plus en situation de responsabilité. Je n'ai pas pu continuer à contrôler ce dispositif. Et c'est vrai qu'après, un certain nombre de promoteurs, indélicats, se sont engouffrés dans ce dispositif, mais sans aucune sécurisation et pour l'investisseur. Et pour les communes auxquelles elles s'adressaient, parce que quand même d'avoir des friches, si ça ne fonctionne pas, c'est une friche touristique pour le maire. Et donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'échecs. Tout ça faisait partie d'une politique globale qui n'a pas été poursuivie, dont je ne peux pas répondre moi aujourd'hui. Le détournement est venu aussi par le fait que, petit à petit, c'était plus un produit touristique, c'était devenu un produit financier. Et c'est les banques qui l'ont porté. Et donc, c'était présenté aux gens comme un produit financier. Et ils achetaient un appartement sur plan, sans se rendre dans les lieux, sans aucun contact. Et donc, ils ont quand même pris quelques risques, il faut le dire. Ils se sont un peu aventurés dans un produit à risque sans le voir. Alors, si on ajoute à cela un certain nombre d'élus qui, quelquefois, sont capables de tout accepter pour avoir un équipement dans leur localité sans voir les dangers, tout ça, ça fait partie de la dérive du dispositif parce qu'il n'y avait plus de politique active territoriale du tourisme. Donc voilà, le dispositif a dérivé, il a dérivé vers un produit financier, alors qu'au départ c'était un produit d'investissement touristique.
Le dispositif a été gardé, mais...
Il a changé nature, il a continué à porter mon nom, mais il a changé de nature. Donc je pense que la leçon de l'histoire, c'est qu'il ne faut jamais donner son nom à un dispositif dont on n'a pas la capacité de le suivre dans le temps.
Alors, à l'origine, ce qui nous a motivés, mon épouse et moi, c'est un projet de défiscalisation.
Vous, au départ, votre motivation, c'était quoi ? C'était...
Alors, la motivation, on ne va pas le cacher, hein, la motivation principale, elle est sur la défiscalisation.
On ne fera plus ce genre d'opération, c'est terminé. On jouera maintenant la sécurité, la tranquillité. Nous deviendrons des petits rentiers.
Pendant 6 ans, je payais pas d'impôts.
Du tout.
Du tout. Du tout. Donc c'était bien, quoi. Hein,
j'ai voulu payer moins d'impôts et en fait, ça a planté. Voilà, quoi.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour monsieur. Je m'appelle Charlotte Perry. J'ai laissé un message sur le site du cabinet de défiscalisation LINS et vous m'avez recontacté.
Eh bien oui, donc vous étiez sans doute à la recherche de renseignements quant à des logiques de réduction d'impôts, non ? C'est pas ça ?
Voilà, c'était exactement ça.
D'accord.
Je paye pas énormément d'impôts, mais bon, enfin, voilà, c'est toujours trop. Hein. C'est...
Ouais. À l'année, vous payez à peu près combien d'impôts ?
Entre 3 500 et 4 000.
D'accord. Globalement, aujourd'hui, je peux très facilement gommer la moitié de votre impôt. Hein.
La moitié ?
Ah oui, facilement.
Moi, je pensais plutôt à quelque chose dans l'immobilier.
Oui, enfin, il y a deux dispositifs qui existent. Il y a un qui s'appelle le LMNP Bouvard et l'autre qui s'appelle le dispositif Cellier.
D'accord, ça veut dire quoi, LMNP ?
Location meublée non professionnelle, en fait, c'est sensiblement la même chose, si vous voulez. Sauf qu'en fait, vous achetez dans une résidence de service. Ça peut être résidence de tourisme, une résidence pour personnes âgées et autres. Vous avez sensiblement exactement les mêmes avantages, avec cette différence, c'est qu'en fait, c'est du meublé. Et que vous avez un bail commercial qui vous garantit le paiement du loyer.
Ah, donc.
C'est-à-dire que, quel que soit le taux d'occupation, de vacances, voilà, vous avez un bail commercial qui vous garantit, tous les mois, le paiement de votre loyer.
D'accord, donc même si mon appartement n'est pas loué, moi, je touche quand même un loyer
Absolument, absolument. Et vous défiscalisez quoi qu'il arrive. Globalement, si vous voulez, l'argent de vos impôts, vous allez continuer à le budgéter. Sauf qu'au lieu de le donner à fonds perdu au trésor public, vous allez finalement le réinjecter pour rembourser une partie du financement que vous avez mis en place pour cette acquisition.
D'accord, parce que bon, y a des risques quand même, je suppose, un peu.
Oui, bon, des risques, non, pas vraiment. Ce qui compte, c'est surtout d'avoir finalement une qualité de produit intéressante et une qualité de gestionnaire. Voilà.
D'accord. Et vous, vos tarifs, alors, c'est quoi à peu près ?
Moi, je suis rémunéré sur les ventes que je fais. Donc, tant que vous n'êtes pas ma cliente, pour vous, il n'y a pas d'impact.
Bon, bah, ça a l'air assez intéressant. Donc, tous les risques sont couverts
Je vous expliquerai tout ça, hein, ouais. Parce qu'on va peut-être se prendre un rendez-vous, du coup.
Voilà. D'accord.
Hein, comme ça, on fera le point de votre situation et de vos objectifs.
Bon, bah, très bien, j'ai hâte.
Eh bah, très bien. Merci à vous.
Merci.
Bonne journée, madame.
Au revoir.
Pour avoir la foi, il faut être charbonnier. Pour être mal chaussé, il faut être cordonnier. Pour séduire la foule, faut chanter la pêche au moule. Et pour pas payer la peau, il faut naître à Monaco. Et c'est comme ça, au niçois qui mal y pense, faut souffrir en silence. Ça sert à quoi de vouloir quitter la France quand on est auvergnat? On peut pas tout à la fois siffler l'apéro et l'opéra. On peut pas, c'est évident, payer content quand on n'est pas content et réciproquement. Pour être légionnaire, faut sentir le sable chaud. Pour bien dire les vers, il faut être moulineau. Pour faire des affaires, faut savoir payer un pot. Et pour pas payer la peau, il faut naître à Monaco. Et c'est comme ça, les Anglais sont britanniques, les jardins botaniques. Ça sert à quoi de vouloir quitter l'Afrique quand on est du Ghana? On ne peut pas tout à la fois siffler l'apéro et l'opéra. On ne peut pas, c'est évident, payer content quand on n'est pas content et réciproquement. Faut manger des épinards. Pour se lever tôt, il faut pas se coucher tard. Quand on est costaud, faut se mettre un beau costard. Et pour pas payer la peau, il faut naître à Monaco. Et c'est comme ça, comme disait La Fontaine, Mironton, Mirontaine. Ça sert à quoi de vouloir quitter la scène quand on ne vous retient pas? On peut pas tout à la fois siffler l'apéro et l'opéra. On peut pas, c'est évident, payer quand on n'est pas content et réciproquement.
Vous ainsi, soyez riches, ne payez plus d'impôts. C'était un reportage de Charlotte Perry. Merci à Hervé Boulmier, Sylvain Desjardins, Maurice Floquet et Manuel Mestre. Merci également à Erwan Sesnec, Paul Duvaux, ainsi qu'à Madame Michèle de Messine. À lire sur le sujet « À l'ombre des niches fiscales » de Katia Vandenfeld aux éditions Economica et « La bataille de l'impôt » de Nicolas Delalande aux éditions Fayard. Il faut rappeler que les niches fiscales coûtent à l'État 110 milliards chaque année, sachant que les contribuables de la dernière tranche, ceux qui sont en haut, sont les plus gros consommateurs de niches fiscales. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, ou bien sur le site là-bas.org, là-bas.org, ainsi que sur notre page Facebook. À la technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Guillaume Roux, Bertrand Chompton et Franck Aderer ont réalisé cette émission, assistée de Marina Touyez, et Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Qui ? Oui ! Qui ? Oui ! Qui ? Oui !
Ben Jean-Mi, à qui tu dis oui ?
Au kiwi, dans mon assiette ! C'est un kiwi français ! Je vais pas lui dire qui est-ce, il faut lui dire oui, au kiwi français !
Ah, kiwi !
Et qui ? Oui ! Qui ? Oui ! Qui ?
Cultivé
oui,
en France, qui, récolté oui, en novembre, le kiwi français se déguste jusqu'en juin. Le kiwi français, le kiwi à qui on dit oui !
On se retrouve lundi à 15h pour la base, si j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
C'est un coup dur pour l'armée française. 20 soldats ont été la cible ce matin des tirs d'un homme vêtu de vêtements de l'armée afghane dans l'est de l'Afghanistan. 4 ont été tués, 16 autres blessés, dont 8 grièvement. Le président afghan Hamid Karzai a présenté aujourd'hui ses condoléances à la France. Le ministre de la Défense Gérard Longuet lui est actuellement dans un avion en direction de Kaboul. Nicolas Sarkozy lui a annoncé la suspension temporaire de l'aide française à la formation de l'armée afghane. La question d'un retrait anticipé a été évoquée. L'épave du Concordia se déplace de 7 à 15 mm par heure. Depuis son naufrage au large de la Toscane la semaine dernière, le paquebot de croisière est scruté à la loupe par les spécialistes. Pour l'instant, les recherches pour tenter de retrouver la vingtaine de personnes toujours portées disparues sont suspendues en raison donc des mouvements du Costa Concordia. Les autorités malgaches préviennent, si Marc Ravalomanana rentre demain, comme il l'a annoncé aujourd'hui à Madagascar, alors il sera arrêté dès le premier pied posé sur le sol malgache. L'ancien président de Madagascar est sous le coup de 3 condamnations par contumace dans son pays pour la mort de manifestants devant le palais présidentiel en 2009. La plainte pour torture déposée hier contre le ministre bélarusse de l'Intérieur en visite en France a été classée aujourd'hui sans suite par le parquet de Paris. 4 opposants au régime du président Loukachenko avaient porté plainte pour des arrestations qui ont suivi l'élection présidentielle en 2010 en Biélorussie. Le Sénat américain reporte aujourd'hui son vote sur la loi anti-piratage sur Internet en raison de la levée de boucliers récente contre ce projet. À la lumière des événements récents, j'ai décidé de reporter le vote à mardi, a déclaré le chef de la majorité démocrate aujourd'hui. Hier soir, la justice américaine en effet fait fermer le site de Mega Upload, la plateforme emblématique et controversée du téléchargement direct sur Internet. Elle l'accuse de violation de droits d'auteur. Le fondateur du site a lui été interpellé en Nouvelle-Zélande. Sa propriété a été dans la foulée perquisitionnée à Auckland. Il y en a comme le Jabi pour qui c'est la crise et il y a des entreprises de chaussures pour qui, au contraire, c'est le moment de créer des emplois. Le fabricant de chaussons de danse et de chaussures Repetto a inauguré aujourd'hui à Coulors, en Dordogne, son propre centre de formation. Son patron a déclaré avoir l'intention d'embaucher 150 personnes d'ici 4 ans. L'entreprise de luxe, qui fait déjà travailler 170 personnes dans son usine du Périgord de Saint-Médard, veut ainsi répondre à la demande. Le groupe a déjà 80 boutiques en France et dans le monde. Il projette maintenant de s'installer en Chine. C'est confirmé, Bruno Gollnisch, le chef de file du FN en Rhône-Alpes, se présentera bien dans le Var lors des prochaines élections législatives qui suivront l'élection présidentielle. Enfin voilà une info qui ne va pas vous plaire, Didier Varro. D'après le site de Télérama, Lana Del Rey, la chanteuse américaine qui fait actuellement un buzz sur Internet et dont on attend l'album fin janvier, aurait
la
donc,
semaine prochaine, oui, c'est
voilà,
ça.
Aurait plagié son tube Video Games. Elle se serait en fait inspirée d'une chanteuse grecque des années 90, Elena Vitali. Et décidément, les critiques s'accumulent contre Lana Del Rey. Sa prestation chante dans Saturday Night Live est jugée catastrophique, tant et si bien qu'elle envisagerait maintenant de mettre un terme à sa carrière, des adieux avant même d'avoir commencé. Original, non ?
Paracalo.
Faristopoli. C'est mon côté grec.
On verra ça la semaine prochaine, je n'ai toujours pas écouté cet album.
Ah bon, mais la chanteuse...
Il y a un peu embargo. La chanteuse grecque, j'ai écouté, ouais. C'est pas flagrant. Hein.
Bon, en tout cas, pour l'instant, sur Internet, vous savez quelle heure il est ?
Et il est 16h03.
C'est dur, la vie, en ce moment.
C'est dur, en ce moment, la vie.
16h03 sur Internet.
Nous autres.
Ça aurait pu devenir un petit paradis. Et ça l'était pendant un temps.
Zoé Varier.
En 2008, la crise financière mondiale balaye l'économie de l'Islande.
Ça me fait penser aux enfants du paradis. Quand il le dit, hein. Ce sont des petits gens, mais ils ont des grands rêves.
Aujourd'hui, leur économie va mieux, mais les Islandais, eux, ne s'en sont toujours pas remis.
Nous autres, ce soir, à partir de 20h.
France Inter.
La différence.
Allez, pas de plagiat, c'est à vous.
Vous êtes contente d'être à côté de Laurent Voulzy ?
Ouais.
Ouais, ça se voit un peu quand même.
C'est mon côté midinette. Désolée pour vous, Loane, pardon.
On vous retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Quand la musique donne...
Rock, musique électro, techno...
Chanson, rap...
La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
La musique, elle est juste là, comment... C'est une vibration.
Didier Varro.
Elle est née à Paris. Il est né à Paris de parents guadeloupéens. Elle ne s'est jamais vue comme une chanteuse. Elle a toujours voulu faire de la musique. Il a toujours aimé faire de la pop comme un architecte. Il est devenu bâtisseur d'une cathédrale sonore. Elle est une fille de la butte, une rêveuse de Pigalle. Il est un fils du soleil, exilé dans le gris. Peut-être pas par accident. Elle aime la nuit, les bars, les néons, les rencontres qui vont jusqu'au lendemain. Il aime le silence, la relaxation, le divin et les forces de l'esprit. Elle est une femme piano, il est un homme guitare. Elle a su entretenir une conversation intime avec ses machines, lui non plus. Elle aime les trains de nuit, les châteaux hollandais et doute d'oublier le goût des autres. Il aime les chevaliers, l'amour courtois, les voyages dans le temps. Elle a son petit panthéon d'hommes qui aiment chanter avec elle, Christophe, Lenny Kravitz. Il a aussi son petit panthéon d'hommes qui aiment chanter avec lui, Souchon, Roger Daltrey. Elle est au commencement de son histoire artistique. Il est toujours dans le vertige des commencements. Elle est auteur, compositeur, interprète. Il est auteur, compositeur, interprète. Elle s'appelle Loane. Il s'appelle Laurent Voulzy. Deux prénoms pour deux initiales. LV, non, ce n'est pas le monogramme culte qui estampille le sac des dames chic. Ni le code pays de la Lettonie selon la norme ISO 31661 alpha 2. C'est Laurent Voulzy qui s'apprête donc à entamer une conversation courtoise avec Loane sur France Inter, l'endroit pour une drôle de rencontre. Bonjour Loane.
Bonjour Didier.
Bonjour Laurent Voulzy.
Bonjour Didier, bonjour Loane.
Ça va bien ? Les deux ?
Alors Loane,
ça va très
Loane,
bien.
Loane, moi aussi.
Alors. C'est vrai. Ouais. Alors, petit rituel pour démarrer cette émission, et c'est Loane qui démarre, honneur aux filles bien évidemment, avec une petite question à Laurent Voulzy.
Alors Laurent, j'ai une question. Est-ce que c'est vrai que t'as rêvé de Kim Wilde avant d'écrire ta chanson ?
Ah oui, bien sûr. Je la regardais à la télé et je la trouvais assez formidable, quoi. Et donc j'ai enregistré une cassette. J'avais une cassette vidéo et à chaque fois qu'elle passait, en fait, il y avait qu'elle sur la cassette. À chaque fois que je la voyais à la télé, j'enregistrais. Et un jour, j'ai montré cette cassette à Alain Souchon pendant qu'on était en train d'enregistrer une chanson, je sais plus laquelle. Plutôt, on était en train d'en faire une. Et je lui ai montré, puis j'avais dit, voilà, tiens, je vais te montrer la fille dont je te parle de temps en temps, Kim Wilde. Il la connaissait pas. Donc, il a regardé l'extrait d'une chanson, Il a dit, je comprends pourquoi tu la trouves bien. Et il m'a dit, depuis le temps que tu m'en parles, pourquoi tu fais pas une chanson qui s'appellerait Les Nuits sans Kim Wilde? Je lui ai dit, on l'a fait tout de suite. Et on a arrêté l'autre chanson, et on a fait la chanson à ce moment-là, quoi.
Et elle est venue même poser sa voix
ben
sur
alors,
la
après,
chanson.
Après, c'est formidable, parce que j'avais trouvé un mot, même c'est David McNeil, d'ailleurs, que j'avais appelé.
Enlève tes lunettes.
Et non, j'ai dit « take it easy ».«
Take it easy ».«
Take it easy ». Et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce qu'elle pourrait... voilà, je voudrais lui dire quelque chose dans le refrain. Je voudrais trouver un motif. Je crois que c'est un peu David qui nous a aidé à trouver cette, ce « take it easy ». Et après, j'ai appelé un ami et je lui ai dit « Kimoy, elle est dans ta maison de disques, Marc Exiga. Et est-ce que tu crois qu'elle voudrait chanter dans la chanson ?» En fait, je voudrais lui faire dire « take it easy » un moment. Et il m'a dit, écoute, ça tombe bien, elle vient à Paris mercredi, elle fait une émission de télé, je faisais la même. Bon, je ne vais pas vous raconter tout en détail, mais bref, on sait, finalement, elle a accepté de faire Take It Easy. Je suis allé dans son studio en Angleterre, et là, il m'a dit, je ne vais pas dire que ça. Et elle a dit, comment on dit, enlève take off your glasses. Alors, j'ai dit, enlève tes lunettes. Alors, ensuite, elle est venue jouer dans le clip, ensuite, on est devenus amis.
C'est d'une sensualité torride, hein, cette phrase, enlève tes lunettes.
Ah, bah oui.
Ça a mis toute une génération au garde à vous. Hein.
Voilà.
Laurent Voulzy, une petite question à Loane.
Oui, je sais pas si je vais dire, si j'ai entendu, alors on s'est dit tu, donc je vais dire tu, j'ai entendu tes chansons, j'en ai entendu chanter, je suis sous le charme, c'est la vérité, sinon je dirais rien, et je voulais te demander, quand est-ce que tu as eu envie de chanter tes chansons? Et peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été déterminant pour toi, que t'entendais à la radio, que tu voyais ou que t'as entendu sur des disques, et qui t'a peut-être donné un coup d'accélérateur?
Avant de commencer, en fait...
T'a donné envie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné envie de... ou pas
de...
Ou t'avais
j'avais beaucoup de gens d'idoles, enfin de chanteuses, de chanteurs que j'apprécie, que j'apprécie.